Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La reine Elisabeth II a prononcé deux discours depuis le début de l'épidémie. C'est exceptionnel, elle en a livré six au total en près de 70 ans de règne. Après avoir traversé des périodes de disgrâce, à 94 ans, elle est au sommet de sa popularité. Code Source raconte aujourd'hui comment Elisabeth II a conquis le cœur des Britanniques avec Charles de Saint-Sauveur, journaliste au service politique et en charge des pages histoire aux Parisiens.
I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time.
Le dimanche 5 avril, alors que l'épidémie de Covid-19 sévit un peu partout dans le monde, Elisabeth II prend la parole en direct à la télévision.
C'est le soir du 5 avril. Les Anglais viennent d'apprendre que Boris Johnson a été admis en soins intensifs à l'hôpital. Le pays doute beaucoup. Et Elisabeth II prend la parole devant 25 millions de Britanniques et même 3 millions de Français.
Dans les années à venir, j'espère que chacun pourra être fier de la façon dont nous avons relevé ce défi.
Elle a choisi une robe de couleur verte. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, pour délivrer un message aux Britanniques. Ne perdez pas espoir et surtout, nous nous reverrons.
We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
Charles Saint-Sauveur, on va revenir avec vous sur ces 60 années de règne pour comprendre cet attachement des Britanniques à la famille royale en 2020. Elisabeth Alexandra Marie Windsor, née le 21 avril 1926 à Londres.
Elle naît en présence du Home Secretary, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur, au nom d'une vieille tradition britannique qui date du XVIIe siècle, qui veut qu'effectivement on se méfie des échanges possibles de bébés. Et heureusement, bon, cette tradition a disparu, mais Elisabeth est sans doute l'un des derniers royal babies à être née en présence du ministre de l'Intérieur.
À quoi ressemble son enfance ?
C'est une enfance qui se passe dans un cocon très ouaté. Déjà, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, ce qui est pourtant pas le fort des Windsor. Son grand-père, le roi George V, l'adore. Elle monte même sur son dos comme s'il s'agissait d'un poney. C'est assez étrange, parce que George V est quelqu'un d'assez hiératique, de très sérieux. Sa grand-mère aussi, qui est la reine Mary, adore cette petite fille qu'elle trouve absolument délicieuse. Il y a la petite sœur qui naît en 1930. Et ils forment une espèce de quatuor. Son père d'ailleurs, Albert, le futur George VI, parle de « us four », nous quatre, pour qualifier son foyer.
Le 20 janvier 1936, l'oncle de la jeune Elisabeth monte sur le trône et à la surprise générale, Édouard VIII abdique moins d'un an plus tard.
Il abdique parce qu'il choisit d'épouser Wallis Simpson, qui est une Américaine, deux fois divorcée. Et le gouvernement britannique fait pression pour que cela n'arrive pas. Il n'y en est pas question à l'époque. Et il choisit de renoncer à sa couronne.
Elisabeth a alors 10 ans et devient deuxième dans l'ordre de succession.
Son père hérite du trône, un trône dont il ne voulait pas, c'était pas du tout attendu. Et de fait, Elisabeth se retrouve propulsée dans la lampe de rancement. Elle devient effectivement deuxième dans l'ordre de succession et donc destinée à régner.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est son père George VI qui doit guider le pays. George VI, c'est un modèle pour elle ?
Oui, c'est un modèle parce que il ne voulait pas régner. Il était effrayé par la couronne, à tel point que quand il apprend qu'il va devenir roi, il s'effondre en larmes dans les bras de sa mère, la reine. Mais il fait face très courageusement. Il est affecté d'un bégaiement qui le handicape beaucoup. Il est introverti, pas du tout à l'aise dans ses habits de monarque. Et pourtant, la guerre arrive. Et là, il va se comporter en souverain vraiment très courageux, aller faire des visites dans les quartiers déshérités ou bombardés, prendre d'énormes risques pour sa vie et former un duo avec Winston Churchill, qui est son premier ministre, très efficace, un duo vraiment institutionnel qui tient la rampe.
En octobre 1940, le moral des Britanniques est au plus bas et on demande à la jeune princesse, âgée seulement de 14 ans, de prendre la parole à la radio.
Princess Elizabeth.
In wishing you all
Good evening.
C'est son premier speech à la BBC, à des fins de propagande. C'est une émission qui est très suivie, qui s'appelle Children's Hour, l'heure des enfants. Les petits Britanniques l'écoutent très régulièrement et Elisabeth livre un message très rassurant. Elle dit aux enfants de ne pas s'inquiéter, que tout se passera bien, ce sont ses mots. Tout ça alors que les bombes pleuvent sur Londres et que le pays a vraiment de quoi s'inquiéter.
It will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place.
À la fin de la guerre, elle va s'engager pour son pays.
Elle s'engage à la fin de la guerre, à plus de 18 ans, vraiment dans les derniers mois, dans l'armée de réserve, donc elle ne combat pas. Elle est conductrice de camions, conductrice d'ambulance, et même spécialisée dans la réparation des moteurs, ce qui la passionne.
Le 7 mai 1945, le régime nazi capitule, et le lendemain, le 8 mai, le Royaume-Uni célèbre la fin de la guerre. Comment Elisabeth vit ce moment historique ?
Alors c'est un moment de grande émotion pour elle parce que son père est au balcon de Buckingham, aux côtés de Winston Churchill et puis d'elle-même, et la foule l'acclame à 8 reprises, un peu comme au théâtre. Le deuxième moment très fort de cette soirée, c'est que son père l'autorise à disparaître dans la foule, à aller crier « Vive le roi, vive la reine !» comme tout le monde, comme n'importe quel Anglais. Ce sont vraiment les premiers et les derniers moments de liberté qu'elle va avoir, et donc c'est une soirée absolument mémorable, comme elle le confiera plus tard.
Parce qu'après, elle vit comment ?
Depuis ses 10 ans, donc depuis que son père est devenu roi, elle vit à Buckingham, un endroit qu'elle n'aime pas beaucoup. C'est un dédale de 600 pièces où elle ne se sent pas du tout à l'aise. C'est une héritière. Tout est guidé par les lois du protocole. Ses amis lui font la révérence. On l'appelle Mam, pas forcément Elisabeth. Il y a vraiment que dans son cocon familial que tout se passe à peu près normalement. Mais sinon, effectivement, c'est déjà quelqu'un qui est appelé à régner, donc avec une vie très particulière.
Le 21 avril 1947, la jeune Elisabeth prononce son premier discours à la nation britannique.
Ça se passe au Cap, en Afrique du Sud, et effectivement, c'est un discours qui est fondateur dans sa vie. C'est son premier voyage officiel, et elle fait un serment ce jour-là, en disant à la radio
« I declare before you all that my whole life,
ma vie entière, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à vous servir. »
And the service of our great imperial family to which we all belong.
Toujours en 1947, elle se fiance avec le prince Philippe de Grèce et du Danemark.
Oui, c'est un cousin au troisième degré qu'elle a rencontré en 1939. Ils ont fait une partie de croquet. Il a 5 ans de plus qu'elle. La légende, sans doute un peu dorée, dit qu'elle est tombée tout de suite éperdument amoureuse. Elle n'avait que 13 ans. Ils ont continué à correspondre par lettre. Et puis progressivement, le ton est devenu un tout petit peu plus idyllique. Jusqu'en 1944, où leur relation va vraiment commencer. À Balmoral, d'ailleurs, au château de la famille Windsor en Écosse.
En 1952, Elisabeth est en voyage officiel en Afrique quand son père meurt des suites d'un cancer. Elle va devenir reine alors qu'elle n'a que 25 ans.
Elle est très jeune. La couronne lui tombe dessus assez brutalement. Son père était effectivement malade depuis quelques années, mais personne ne s'attendait à ce qu'il disparaisse aussi vite. D'ailleurs, elle l'apprend alors qu'elle vient de démarrer une tournée très longue dans le Commonwealth. Elle est au Kenya et elle doit rentrer précipitamment à Londres.
C'est la vie dont elle rêvait ?
C'est pas du tout la vie dont elle rêvait, comme son père d'ailleurs, qui ne voulait pas être roi. Elle a intégré très vite qu'elle allait devenir reine, mais son tempérament ne la prédispose pas vraiment à devenir une reine. Ce qu'elle aime, elle, c'est être à la campagne, entourée de ses chiens et de ses chevaux. D'ailleurs, elle aurait rêvé d'avoir une carrière dans le monde hippique ou dans le monde équestre.
Plus d'un an après la mort de son père, le 2 juin 1953, elle est couronnée reine d'Angleterre. À 27 ans, cérémonie diffusée à travers la planète à la télévision.
Oui, c'est un événement qui est diffusé en direct en mondiovision, c'est-à-dire sur tous les continents. 300 millions de personnes regardent Elisabeth se faire sacrer ce jour-là. Elle est reine sous les yeux du monde, ça ne va jamais cesser.
When she appears to join her procession, the service of coronation has ended.
Dans les premières années de son règne, elle va avoir un mentor, Winston Churchill.
Winston Churchill revient au pouvoir en octobre 51. Elisabeth est propulsée sur le trône en février 1952. C'est un drôle d'attelage. Hein. D'ailleurs, Winston Churchill considère au départ que c'est une enfant. Il ne la connaît pas vraiment. Il a beaucoup aimé son père, mais sa fille, il ne la connaît pas. Et pourtant, ce duo va très bien marcher, ce duo institutionnel. Lui, le mentor, le père de substitution, elle, très désireuse d'apprendre. Ils vont cheminer ensemble pendant quelques années. Elle apprécie beaucoup Winston Churchill, comme tous les Anglais d'ailleurs. Elle lui fera un honneur très rare quand Churchill partira de Downing Street en venant déjeuner dans la résidence du Premier ministre, qui ne se fait jamais, c'est la reine.
Tout au long de son règne, elle va connaître 14 premiers ministres au total. elle ne prend jamais parti ?
La reine ne prend jamais parti. C'est vraiment la condition sine qua non de la monarchie parlementaire anglaise. Elle est au-dessus des clivages. Quand elle rencontre tous les mardis en audience privée ses premiers ministres, la reine ne procède que de façon indirecte. Plutôt que de manifester son opposition, elle va plutôt dire « ne croyez-vous pas que » ou alors « on me rapporte que ». C'est sa façon à elle, très subtile, de marquer une sorte de désapprobation dont le premier ministre n'est pas du tout obligé de tenir compte puisque les pouvoirs de la reine sont très limités.
Elle va être en désaccord notamment avec Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher ne lui plaît pas beaucoup, en tout cas au début, parce que c'est une libérale vraiment brute de décoffrage et que la reine, elle, a des convictions chrétiennes très ancrées. Et aussi, bon voilà, c'est une conservatrice qui n'aime pas trop qu'on bouscule la société. Le contraire de ce que fait Margaret Thatcher.
Dans les années 90, sa famille va exploser au grand jour dans les journaux. Trois de ses quatre enfants vont divorcer.
Pour cette reine très pudique, élevée selon les codes du monde ancien, c'est de voir sa famille littéralement se déliter sous l'œil du monde entier à travers les tabloïds qui en font leur chou gras. C'est d'une violence absolue, elle le vit très mal. Évidemment, notamment la séparation puis le divorce de son fils Charles avec Lady Di, qui est un espèce de poison lent comme ça, qui met vraiment à mal la monarchie. C'est elle d'ailleurs qui va imposer le divorce en jugeant qu'à un moment donné, trop c'est trop et que ça fait vraiment vaciller la couronne.
Le 31 août 1997, Lady Di, la mère de ses petits-fils William et Harry, meurt dans un accident de voiture à Paris.
Elle meurt sous le pont de l'Alma, après avoir été poursuivie par des photographes. Elle sortait du Ritz, la voiture allait beaucoup trop vite, s'écrase sur un pilier dans le tunnel sous le pont de l'Alma. Elle meurt dans la nuit du 30 au 31 août 1997, à côté de son compagnon, Dodi Al-Fayed. Et c'est immédiatement un bouleversement total dans le monde, et puis particulièrement au Royaume-Uni, où immédiatement des centaines et des milliers de roses sont déposées devant sa résidence à Kensington Palace.
Il y avait là des centaines de gens qui apportaient des fleurs. Nous étions littéralement estomaqués.
La foule a besoin d'un exutoire pour laisser parler son cœur. Des registres de condoléances sont ouverts au palais de Buckingham. Ils attirent des milliers de personnes.
Que fait Elisabeth II à ce moment-là? Elle est où? Elle fait quoi?
Elisabeth II, publiquement, ne fait rien, ne dit rien. Elle est recluse au château de Balmoral, ne s'exprime pas. Elle s'occupe de ses petits-enfants, Harry et William. Et de toute façon, elle est d'une autre génération. Never explain, never complain, selon la tradition de son arrière-grand-mère, la reine Victoria. Ne pas se justifier, ne pas s'expliquer. Elle garde sa douleur pour elle. Et elle s'occupe de ses petits-enfants, William et Harry.
C'est mal perçu par les Britanniques?
C'est très mal perçu par les Britanniques. La reine passe pour froide, distante. Se demande à quoi elle sert, si elle n'est pas capable d'exprimer un petit peu de compassion, non seulement pour son ex-belle-fille, mais aussi pour la princesse des cœurs, celle que les Anglais adorent. Ils ne comprennent pas son silence, qu'ils assimilent à de la froideur.
C'est le Premier ministre Tony Blair qui va la convaincre de s'exprimer.
Oui, Tony Blair a compris que le peuple voulait un geste de la reine, voulait un peu de compassion, et il va en parler à la reine. C'est très bien décrit d'ailleurs dans le film de Stephen Frears qui s'appelle The Queen. La reine est réticente puisque, effectivement, c'est pas du tout sa façon de faire, mais elle va comprendre qu'elle n'a pas le choix et qu'il lui faut s'exprimer, il faut se montrer un petit peu de compassion.
Et finalement, elle prononce un discours.
I admired and respected her for her energy and commitment to others, and especially for her devotion to her two boys.
Au bout de 6 jours, elle va prendre la parole à la télévision et prononcer un discours qui fera date. Elle rend hommage à la princesse Diana en parlant d'une personne talentueuse, d'une personne exceptionnelle. C'est vraiment ce que les Britanniques veulent entendre. Et puis elle s'exprime surtout en tant que reine et en tant que grand-mère. Et ça, vraiment, ça va beaucoup parler et beaucoup faire pour sa popularité.
So what I say to you now, as your queen and as a grandmother, I say from my heart.
La même année, 1997, la famille royale va changer sa stratégie de communication.
Oui, ils vont comprendre quand même que quelque chose s'est très mal passé, qu'ils sont plus en adéquation avec la nation, avec ce que veulent les Anglais, qui sont sans doute un peu trop à l'écart. Donc ils vont changer leur politique de communication, vont changer aussi les personnes. Les stratèges de Buckingham, vraiment, qui sont des hauts fonctionnaires, vont progressivement être remplacés par d'autres, plus jeunes, des experts en relations publiques, qui vont vraiment driver, c'est-à-dire conduire le changement dans la douceur.
Ça fonctionne ?
Ça marche très bien. Il faut quelques années quand même pour redresser la barre. C'est une entreprise de longue haleine. Mais oui, ça va marcher.
En 2005, elle accepte que son fils Charles se remarie avec sa maîtresse de toujours, Camilla Parker Bowles. Ça prouve qu'elle a changé.
Au début de son règne, il n'était même pas question qu'elle ait à sa table des couples divorcés. Alors, accepter que son fils se remarie avec une personne divorcée, qui est sa maîtresse depuis très longtemps, oui, c'est déjà un sacré changement.
Ici, ce pont qui est en train de s'ouvrir pour laisser passer le Spirit of Chartwell sur lequel est embarquée une partie de la famille royale, Elisabeth II, qui fête donc ses 60 ans de règne.
Et puis, le 3 juin 2012, ses 60 ans de règne sont célébrés partout dans le royaume et les Britanniques y participent avec enthousiasme.
Oui, c'est une fête absolument incroyable. Elisabeth est au crépuscule de sa vie, mais vraiment au zénith de sa popularité. Elle n'a jamais été aussi aimée dans son royaume. C'est vraiment une granny, une grand-mère, comme les Anglais les adorent. Le jubilé de 2012, qui marque les 60 ans de son règne, c'est vraiment une incroyable démonstration de ferveur du peuple britannique pour sa reine.
Elle est formidable, c'est une légende, on l'adore. Elle est notre monarque depuis si longtemps. Elle était déjà là pendant la guerre avec son père. Moi, j'aime ça.
Le 9 septembre 2015, elle bat le record de longévité sur le trône d'Angleterre, dépassant la reine Victoria. Est-ce qu'elle pense, à ce moment-là, à abdiquer, à transmettre la couronne ?
Elisabeth n'a jamais songé à abdiquer, pas question pour elle. Elle a été très claire en 1947 lors de son discours du Cap. C'est un travail à vie, un métier à vie qu'elle va exercer jusqu'à son dernier souffle. En revanche, elle prépare la suite, c'est-à-dire qu'elle transmet progressivement le flambeau à son fils Charles, qui la représente dans de plus en plus de cérémonies. Et à partir de 2015, voilà, la reine qui a 89 ans à ce moment-là ne voyage plus. Donc c'est vraiment Charles maintenant qui va s'en charger.
Depuis le 19 mars, Elisabeth II et son époux, le prince Philippe, sont confinés au château de Windsor. Elle fait donc un premier discours le 5 avril, on l'a vu au tout début de cet épisode, puis un second le 8 mai. Pourquoi cette date, Damon ?
C'est une date qui est très importante parce que c'est exactement 75 ans, jour pour jour, heure pour heure, après le discours de son père, le roi George VI, aux Britanniques pour leur annoncer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment, voilà, une date symbolique très forte.
Never give up, never despair. They fought so we could live in peace, in a world of free nations.
Et pour Elisabeth, un moment très important parce que c'est l'occasion de rendre hommage à son père, qu'elle a adoré et qui a beaucoup compté ensuite pour la conduite de son propre règne.
Charles de Saint-Sauveur, Elisabeth II a prononcé au total 6 discours pendant son règne, dont 2 ces derniers mois pendant la crise du coronavirus. Pourquoi ?
Alors, il ne faut pas exclure que c'est peut-être l'un de ses derniers discours, mais surtout, le plus important, c'est qu'elle continue à faire son job. Et elle le fait très bien. La nation doute, la nation est déprimée. Le coronavirus a tué plus de 30 000 Britanniques à ce moment-là. Et donc la reine, qui se porte d'ailleurs comme un charme malgré ses 94 ans, livre des paroles très apaisantes. C'est un petit peu comme les rois thaumaturges de l'époque. Le roi te touche, Dieu te guérit. Ben voilà, la reine ne guérit pas, bien évidemment, mais elle rassure par ses paroles.
Vous venez de nous raconter assez brièvement, finalement, la vie de la reine, mais il y a eu des films, des séries qu'on peut voir sur Netflix sur la reine. Qu'est-ce que ça a changé pour les Britanniques de voir la reine comme ça dans ces fictions ?
Je crois que les Britanniques étaient habitués à voir la reine avec sa couronne, avec ses devoirs, sa charge. Ils la respectaient, ils l'admiraient beaucoup, mais l'aimer en tant que personne, c'est autre chose. Et les séries, notamment The Crown, qui est une série très très populaire, permet d'entrevoir même de façon très romancée la reine en tant que personne. Et ça, évidemment, ça compte beaucoup, parce qu'on se rend compte que voilà, son job, il n'est pas facile du tout, et qu'elle l'a conduit avec une constance absolument remarquable. Et ça montre aussi que derrière le sentiment de la couronne, derrière la pompe monarchique, Il y a une femme avec un cœur qui bat, des émotions, des doutes, beaucoup de moments difficiles en tant que mère, en tant que femme, qu'épouse. Et donc, bah voilà, les Britanniques se sont mis à l'aimer profondément et redoutent d'ailleurs qu'un jour ou l'autre, bah, une page se tourne définitivement.
Merci à Charles de Saint-Sauveur. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Marion Botorel, production Thibault Lambert et Benjamin Boucriche, réalisation Alexandre Ferreira.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.